Toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Tactique. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre 2025 et chose promis, chose due, nous avons proposé de faire plusieurs émissions sur la CAN. Donc on avait déjà abordé les points de vue juridiques avec Tanguy, donc ça devait être le mois dernier, voire même celui d'avant. Et on voulait parler, on a abordé le problème de l'eau, donc aujourd'hui...
C'est pour ça aussi que moi je souhaitais parler de l'eau, parce qu'on a 136 communes, c'était le dernier décompte que j'avais fait, parce que ça va faire bientôt 2 ans et demi que sont apparues des CODERS, c'est-à-dire des commissions départementales des sites et risques technologiques. Et donc on nous parle de ces communes où l'eau a des problèmes, notamment le chlorodysphényl et le chlorométhalonil, hein, c'est des produits issus de l'agriculture, enfin des activités agricoles, et qui viennent polluer l'eau. Donc c'est des produits interdits, mais que bon, maintenant, ils sont là.
Mais ils sont là parce qu'ils étaient dans le terrain et puis ils descendent tranquillement dans l'eau, ou alors il y a des gens qui continueraient à les utiliser même si c'est interdit?
Alors ça, c'est, je ne sais pas, j'espère que non. C'est des produits qui ont été utilisés beaucoup sur la betterave. En fait, donc nous, on est quand même un département où il y a beaucoup de betteraves.
Ouais, oui.
Donc c'est aussi pour ça qu'on a des grosses quantités. C'est pareil, c'est des produits qui sont présents, détectés depuis peu. Hein, depuis peu, il y a l'obligation de les détecter, donc on le sait. Donc on voit maintenant se mettre en place des usines de traitement. Donc ça va coûter très cher. Je crois que celle de Reims, il y en a pour 8 millions d'euros. Il y en a déjà deux. Hein. Il y en a une à Villers-Auneuil, il y en a une près de l'autoroute du côté de Sillery, Cormontreuil.
D'accord.
Et puis bah là, par exemple, il y en a une qui est en train de se monter sur SWIP, qui a coûté 9 millions d'euros. Et oui. Donc, on va traiter au charbon actif pour essayer d'enlever ces deux molécules. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est ce qu'on entend sur les PFAS, les polluants éternels, et qui vont être en détection obligatoire à partir de l'année prochaine. Donc on sait
2026
qu'on...
ou
2026, oui.
Ah ouais.
Donc on sait qu'on va avoir des analyses qui vont venir et puis qui vont dire l'eau, elle est déclassée pour tel PFAS ou tel autre. Il y a la carte déjà, la carte de Génération Future, qu'on peut consulter sur leur site internet,
ouais.
Et qui donne déjà des taux de concentration PFAS.
J'ai alors une question que peut-être pour que les personnes qui nous écoutent ne voient pas tout en noir, parce que les polluants éternels, les personnes entendent de plus en plus parler. Mmh. On va leur parler de leur poêle de cuisine, des revêtements en téflon qu'il y a à l'intérieur.
Ouais.
Mais est-ce que c'est présent aussi dans la grande industrie?
Oui.
Non, mais l'histoire qu'on arrête de faire culpabiliser
les gens,
la consommatrice, le consommateur qui achète uniquement ce qu'on leur propose,
bien sûr.
Et de se dire, voilà, donc où ces polluants éternels apparaissent en majorité.
Oui, parce qu'on nous a vanté ça, les poils en téflon.
Oui.
On veut dire que c'était vachement efficace, moins de gras.
Le plastique, c'est fantastique.
Ça allait être meilleur pour la santé. Hein. Ah oui.
Puis surtout, ça accroche pas.
Oui, bah oui. Et bon, bah ça, les gens, ils sont victimes de ça.
Oui.
Et les PFAS, donc, oui. Alors là, on va culpabiliser les consommateurs. On va bien culpabiliser aussi, je sais pas, les pompiers, par exemple. Parce que dans les extincteurs, il y aurait des PFAS. Donc, on va les culpabiliser. On va aussi le faire, par exemple... pour l'industrie papetière, puisque là, par exemple, les pollutions qui ont eu lieu, je ne sais plus si c'est dans les Ardennes, j'aurais pu citer les noms de la dizaine de villages qui sont touchés, c'est du côté de Sedan. Donc il y a 10 villages qui sont touchés par une pollution PFAS, donc là c'est l'interdiction de consommer l'eau. Donc les gens, ils vont s'acheter leurs bouteilles. Alors là, l'industrie papetière, il y aurait eu un épandage de bouts de papeterie.
Ok.
Voilà, qui aurait causé ça assez rapidement, quoi. C'est ça qui est. Bon, je n'ai pas le. Je n'ai pas depuis combien de temps il y a eu des épandages comme ça. Mais il y a fort à parier qu'on va découvrir que des PFAS, il y en a dans tout un tas de produits qu'on ne savait même pas. Hein, parce que c'est le secret industriel, donc on n'a pas le droit de donner les recettes secrètes. De,
ouais, bah ouais, ouais.
C'est merveilleux.
C'est comme le Roundup, quoi. Ils donnent le nom d'une molécule et il en a 15 en plus, quoi.
Ouais. Il y a déjà eu des associations qui ont demandé justement qu'on lève certains secrets comme ça, non?
Les recettes, non. Qu'on les modifie.
D'accord.
Qu'on les modifie pour faire autrement qu'avec ce produit-là.
Ok.
Mais je voyais, par exemple, on nous parlait beaucoup des frigos qu'on avait remplacés parce qu'il y avait un produit qui faisait des trous dans la couche d'ozone.
Ouais, gaz à effet de serre.
Et en fin de compte, le produit qu'ils ont mis à la place, lui, il fait autre chose, quoi.
Oui.
Il fait pas de trous, mais...
Oui, oui. Et pas mieux.
Ouais.
Il faut faire des maisons avec des caves.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et c'est marrant. J'ai pas d'autres termes, c'est parce que tu parlais de cadmium, mais ça m'a fait penser aussi à une information qui est. C'était il y a un mois et demi ou deux mois où on en parlait du chocolat.
Ouais, mais avec que le chocolat
et
bio.
Alors, majoritairement le bio qui avait des soucis, et si je me rappelle bien, c'était aussi du cadmium justement qui avait dedans.
Ah oui, parce qu'en fait, le cadmium, c'est dans le sol qu'il est au départ. Par exemple, c'est les engrais marocains qui sont particulièrement chargés en cadmium. Mais si on prend des intrants, des engrais venus d'autres pays, peut-être il y a moins ou ça ne le fait pas.
Alors, il y avait une autre explication. Enfin, ce qu'il y avait aussi, c'est que pour le chocolat industriel, en fait, il venait de zones qui avaient été totalement déboisées. Et donc, ils n'avaient jamais eu d'engrais. Donc, c'est aussi pour ça que les taux en cadmium étaient moindres. Hein. C'est parce que c'était une forêt qui avait été rasée pour faire pousser du chocolat.
Ouais,
bref, retournons à notre sujet, l'eau. Et donc là, on est au robinet. Est-ce que, alors il est trop tôt, mais donc certaines mesures ont peut-être commencé à apparaître, voir leurs effets sur le corps humain. Est-ce qu'on en sait aussi dans le corps humain comment il le filtre et ce qu'il rejette aussi après?
Alors oui, alors bon, il faudrait le mieux, ça serait d'interroger un médecin quand même, parce que c'est quand même des. Moi, j'ai quelques infos, mais c'est vrai que c'est.
Ah non, moi, ma question, c'est surtout ce qu'on a déjà entendu parler de tests urinaires proposés à des personnes au gouvernement pour justement se rendre compte des polluants qu'on retrouvait dans les urines. Et enfin voilà, c'était juste pour se rendre compte de certaines choses.
Alors, c'est pas toujours dans les urines, c'est souvent dans les cheveux. On fait les analyses de polluants. Donc, c'est Génération Future qui a beaucoup fait ça.
D'accord.
Qui a fait ça effectivement à l'Assemblée nationale et puis qui a fait ça aussi auprès de groupes d'enfants d'écoles très proches, par exemple, de lieux ou d'activités agricoles. Voilà.
Ok.
C'est eux qui militent beaucoup pour aussi les bandes de non-traitement à proximité des maisons, etc.
Okay.
Ils ont constaté donc la présence de polluants dans les cheveux même d'enfants, même dans les fœtus. Ils ont fait des études auprès de femmes enceintes. Et puis, leurs études, elles ont aussi démontré qu'il y avait... selon certains produits, des retards cognitifs chez l'enfant. C'est-à-dire que des enfants qui ont beaucoup de produits, notamment des perturbateurs endocriniens, ils ont un retard cognitif. D'accord. Donc ça, c'est quand même... moi, je ne suis pas médecin, hein, mais on remet en question des maladies qui deviennent émergentes, comme l'autisme. Est-ce que l'exposition aux produits chimiques favoriserait l'autisme, mais pas que par l'eau. Hein. Oui. Faut se rendre compte qu'il y a.
Ah, bien sûr, il y a plein de malheureusement.
Ouais.
Mais et puis les perturbateurs endocriniens, ça fait aussi partie quoi. Ça nuit à la santé aussi.
Bah oui.
Donc quoi, forcément.
Ah oui. Bon, les maladies endocrines, ça peut être les glandes surrénales ou tout ce qui est hormones, tout ce qui est normalement tous ces produits qui font que le corps fonctionne bien. Mmh. Ah. Donc si on perturbe ça, ça peut créer plein de situations.
Mmh. Mmh. Ah, oui, tout à fait.
Donc moi, je disais, demain, j'ai un Coderst. Donc on va m'annoncer encore 5-6 villages où l'eau n'est pas bonne. Et c'est quand même un peu étonnant parce que là, il y avait... En commission, on nous présente la problématique. L'ARS, elle nous dit, voilà, l'eau, elle n'est pas bonne pour ceci, pour cela. Et puis, il y a le maire, souvent, de la commune, qui vient accompagner de son technicien ou d'un technicien d'une société comme Veolia ou Suez, qui vient expliquer ce qu'ils vont faire. Et je suis toujours... ça me met un petit peu en colère, des fois, parce qu'il y a... On a des élus qui... Bon, ben, c'est cool, y a le technicien, on va faire ça. Ça va... Bon, il y a les 8 millions d'euros, on va le faire. Et puis, et par exemple, l'autre jour, j'ai remercié un élu en lui disant, bah, écoutez, monsieur, j'apprécie que vous ne parliez pas d'eau conforme et que vous parliez toujours d'eau de qualité. C'était un élu qui disait, moi, je veux que les gens dans ma commune, ils aient une eau de qualité. Mmh. Alors que l'arrêté préfectoral, c'est une eau conforme, ouais, avec plein de saloperies dedans, quoi. Donc, y a, de la part des élus, il n'y a pas toujours... on est comme dans un département, avec l'innovation, on va faire des choses formidables, on va régler tous les problèmes. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir arriver ces usines de traitement avec des procédés qu'on va mettre dedans et qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ouais. J'ai entendu deux choses. J'ai entendu... Donc, c'était sur SWIP, il disait que... Donc, il mettait en place un traitement au charbon actif, mais que... du coup, il y avait un problème parce qu'ils étaient obligés de changer quand même souvent le charbon.
Oui, ah, j'imagine.
Donc, ils arriveront quand même à traiter suffisamment d'eau pour retourner en dessous de la norme et fournir SWIP. Et puis, la communauté de SWIP, il y a quand même plusieurs villages, il y a quand même pas mal de gens. Mais ce n'est pas une grosse ville, ouais, comme Reims ou Chalon. Mmh, mmh. Donc, je pense que c'est accessible. Mais par contre, alors je ne sais plus, je ne saurais plus dire quel village c'était ou quel bourg c'était. Mais là, ils vont mettre en place un système où ils vont. Un système qu'ils sont en train de tester, où ils mettent du charbon actif. Mais il faut imaginer du charbon actif qui arrive par un côté, une sorte de nasse dans laquelle est filtrée l'eau, et puis avec une certaine quantité de charbon qui doit rester toujours la même, et puis de l'autre côté, une partie de charbon usé, entre guillemets, qui repart. Et donc c'est un système en continu qu'ils sont en train d'installer, et qui va consommer 40 kilos par jour de charbon actif. Et ce charbon actif, en fait, c'est un déchet. Une fois qu'il est usé, c'est en centre d'enfouissement. Hein. Donc avec les coûts et...
Bah oui, puis il doit être chargé en pollution, ce qui a été enlevé, quoi. Bah donc oui. Si après, c'est pour le remettre...
Oui, je ne sais pas comment ils stockent.
L'enterrer, au final, au bout de plusieurs années, ça retombe dans la nappe. Ou
je ne sais pas comment ils les emballent, comment ils les stockent. Ouais.
Après, si c'est dans un produit ça, c'est une question, qui brûle, c'est pas mieux. Quoi.
Ouais, est-ce que dans 50 ans, 100 ans, tous ces produits-là mis au même endroit, est-ce qu'ils seront toujours aussi stables que...
Ouais, c'est un peu des problématiques qu'on retrouve partout. C'est qu'on s'aperçoit que quelque chose ne fonctionne pas ou est dangereux. On va le continuer, puis on va créer un médicament. Mais ce médicament-là aura des effets secondaires. Ben, c'est pas grave, on va quand même créer d'autres médicaments pour résoudre ça, mais qui auront eux aussi des effets secondaires. Et en fait, on passe son temps à mettre des pansements. Et qu'est-ce qui pousse à cette course-là, en fait, hein?
C'était quand même, ça a toujours été un peu comme ça, quand même. Il faut reconnaître que de vivre ensemble, puis de vieillir, on s'use. On veut corriger. On trouve des solutions, mais je pense que c'est sans fin, malheureusement. Mais surtout, c'est qu'on se complique la tâche. aussi, parce que il y a des choses qui sont mises en œuvre. Alors c'est l'industriel qui a trouvé le procédé, qui fait une étude et qui dit que c'est bon, et puis du coup hop, ouais, on embraye et puis on y va. Voilà, ouais. C'est plus ça le problème. C'est la facilitation à chaque fois par l'État de, et sans trop regarder.
Oui, mais le problème, il vient aussi, par exemple, de la façon de cultiver. Parce que si on mettait moins d'engrais, il y aurait moins de résidus dans le sol. Il faudrait revenir à une culture plus raisonnée, quoi.
Oui, c'est... Faudrait peut-être...
Mais après, le problème, c'est que c'est financier. Ils ne veulent pas perdre...
On est sur un modèle économique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va... Il faut que la machine, elle tourne, parce que si la machine, elle ne tourne pas, on va dire qu'on ne pourra plus soigner, on pourra plus... Et donc, ce qu'on fait, c'est des dégâts collatéraux. Hein, donc, on va essayer de les régler, mais l'innovation apportera toujours une solution. Ça, c'est dans l'esprit de nos dirigeants, il y aura toujours une solution scientifique.
Et là, tu parlais de l'eau et donc de la consommation, mais une personne qui boit que de l'eau en bouteille va se dire « bon, ben, je suis protégé ». Mais cette personne-là mange des aliments. Est-ce que ces aliments-là ont aussi, que ce soit des végétaux ou même des animaux, eux qui ont bu qui ont eu accès à de l'eau, donc potentiellement polluée, est-ce qu'on retrouve aussi ces substances-là dans toute la chaîne alimentaire finalement ?
Toute la chaîne alimentaire, je sais pas, je saurais pas dire. Ce qui est sûr, c'est que les produits, par exemple, le cadmium, pour prendre le cadmium, comment il est dans les intrants, celui qui cultive en conventionnel et qui en met beaucoup, et qui met des intrants qui viennent du Maroc, bon, parce que je l'ai cité, donc c'est sûr que les carottes qui va sortir, il y aura du cadmium dedans.
Voilà. D'accord.
Ça, c'est clair. Après, les produits, ils se retrouvent... Alors, je ne sais pas tout. Hein. Est-ce que dans les traitements de la betterave...
Il faut qu'on choisisse mieux nos invités maintenant. Ouais. Moi, je pensais que tu savais.
Le sucre, il y a tellement de traitements. Est-ce qu'il reste, au final, dans le carré de sucre, des traitements par rapport au traitement de la betterave? Après, il y a cet aspect par rapport à l'eau, il y a l'aspect pollution, mais il y a aussi l'aspect accaparement de l'eau, dont on n'a pas parlé. Tu parlais de biens communs tout à l'heure. Depuis maintenant que... Moi, je ne me suis pas présenté. Hein, je suis président d'une association, mais je suis beaucoup intéressé à l'eau depuis les années 2006. Où à l'époque, on n'avait plus d'eau potable et on avait fait un procès à la Veolia. Et procès qu'on a gagné. Donc depuis, je me suis intéressé à ce qu'on pouvait faire pour l'eau. Et puis on est entré dans les commissions préfectorales pour essayer de mieux comprendre. Et j'ai perdu le fil. On parlait de la quantité d'eau. En fin de compte, la nappe de craie, dans l'esprit des décideurs, c'est qu'elle est infinie, une telle quantité que... Donc on distribue beaucoup de quotas pour la betterave, pour l'irrigation de la pomme de terre. Et donc il faut comparer la consommation d'un village de 500 personnes, c'est 45 000 mètres cubes d'eau par an. Et un champ de pommes de terre de 10 hectares, ça peut aller jusqu'à 120 000 mètres cubes. Donc, il y a des quotas, oui, c'est ça qu'on parlait, il y a des quotas. Donc, l'armée, par exemple, nous, on a des grands camps militaires, l'armée a des quotas. On n'a même pas le droit de savoir combien ils tirent de leur côté. On sait juste qu'ils ont un forage quelque part.
D'accord.
Ensuite, depuis longtemps, on dépose une demande de forage, on fait des essais, on a une autorisation pour faire des essais, et puis après, on a une autorisation, si on prouve que tout est OK, on a une autorisation pour aller pomper de l'eau. Et donc, on obtient un quota pour une activité. Voilà. Et depuis peu de temps, enfin, quand on s'intéresse au local, c'est-à-dire, ah ben là, il y a quelqu'un qui veut un quota de 120 000 m3, et est-ce qu'autour, il y en a d'autres, des forages ? Voilà. Maintenant,
oui,
on commence à s'intéresser.
Ça commence à okay. se dire, ça dire. Fait...
Ouais, voilà. Donc, parce qu'on s'est rendu compte que la nappe diminuait.
Mais quand tu dis « on », c'est nos politiciens ou il y a quand même des personnes qui se posaient la question il y a déjà une cinquantaine d'années ?
Une cinquantaine d'années, je ne sais pas.
D'accord.
Il y a quand même des organismes qui sont chargés de ça.
D'accord.
Il y a le BRGM qui s'occupe de tout ce qui est dans le sol.
Ouais.
Donc aussi les quantités d'eau. Il y a la police de l'eau, l'OFB, qui s'occupe des cours d'eau en surface. Il y a les collectivités qui s'occupent de leur forage pour savoir traiter, protéger l'eau. Voilà. Donc il y a quand même des élus et puis des agences d'État. Et puis le préfet, lui, qui fait un petit peu la loi dans tout ça, il prend avis auprès de tout le monde et puis il dit « bon ben top, ça sera comme ça voilà. ».
Posée sur une feuille au vent qui chante. Le soleil me chauffe, je m'envole. Hop, dans un doux nuage je fais un stop. Je monte, je vole, je tombe, je cours. Un long voyage, un éternel retour. De la mer aux cieux, des rivières aux flots. Je suis la goutte en balai sur l'eau. Gros nuage, je flotte, je dors, poussé par le vent du sud au nord. Puis la pluie m'appelle, je redescends, chatouillant la terre en mille accents. Je monte, je vole, je tombe, je cours. Un long voyage, un éternel retour. De la mer aux cieux, des rivières aux flots. Je suis la goutte en balai sur l'eau. Je file entre les galérons. Dans les rivières, je glisse, je vais vers l'océan pour recommencer. Je monte, je vole, je tombe, je cours. Un long voyage, un éternel retour. De la mer aux cieux, des rivières aux flots. Je suis la goutte en balai sur l'eau.
Et oh, là, tu parlais de 2006, et donc si je me dis que ça fait une vingtaine d'années que tu t'intéresses à l'eau, je me dis, est-ce que toi, t'as une idée sur nos réserves d'eau sur les 20 dernières années, comment elles ont évolué?
Ah donc, elles évoluent en diminution, parce que quelles sont les conditions qui font qu'il y ait moins d'eau? Déjà, des fois, il y a moins de pluviométrie, hein, c'est un phénomène qu'on observe avec le changement climatique. Il y a aussi la quantité de pompage qui devient de plus en plus phénoménale.
Mm-hmm.
Hein, la commission locale de l'eau, on a peut-être bien... une demande de forage par mois, hein, si c'est pas plus,
wow.
pour des quantités à des endroits où il y en a déjà plein. Il y a aussi beaucoup de forages qui n'ont jamais été déclarés, qui sont déclarés. Il y a aussi des forages qui sont abandonnés parce que l'eau au fond n'est plus bonne. Alors, ça peut être très local, hein, mm-hmm. ou alors c'est une partie de la nappe plus importante. Et puis, il y a la question de la recharge, c'est-à-dire que la pluviométrie, il pleut, mais l'eau n'a pas la possibilité d'arriver à la nappe. Alors pour plein de raisons, déjà parce qu'on a drainé tout, on fait des fossés, il faut que l'eau elle parte tout de suite, on n'en veut pas de l'eau. Donc elle n'a pas le temps de s'infiltrer.
Ouais, et puis le sol est imperméabilisé, quoi. Dans les villes, il n'y a rien.
Ben voilà. Ouais. Et puis on a aussi des phénomènes de battance dans les champs.
Phénomène de battance.
Oui, c'est-à-dire que le sol, par exemple, il va sécher en été, il va devenir très dur, hein, si c'est des argiles, par exemple. Là-dessus, il va y avoir une pluie qui va taper avec force sur le sol, donc elle va ruisseler et pas s'infiltrer.
Ah, elle ravine.
Oui, elle va raviner, d'accord, donc okay, elle va arriver au fossé. J'ai déjà posé plusieurs fois la question, il y a la question des drainages. On ne se rend pas compte parce que c'est des tuyaux qui sont en sous-sol. Mais par exemple, ce n'est pas du tout évalué la quantité d'eau qui peut être drainée dans le sous-sol.
Ah ouais.
Voilà. Et donc, le drainage, ça a permis de cultiver des zones qui étaient humides. Ouais, ou des prairies où il y avait de l'eau. Bon, maintenant, c'est devenu des champs. Donc, toute cette eau-là, elle ne s'infiltre plus, elle part.
Oui, et elle part. Et en plus, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer ça ou me contredire, on a allongé le circuit de l'eau. C'est que de l'eau qui est prélevée à un endroit ne va pas retomber à cet endroit-là.
Oui.
Parce qu'on a allongé, justement...
Oui. Alors, bon, c'est sûr qu'il y a aussi un effet de déplacement
oui,
de quantité d'eau importante. Si on analyse un peu le cycle de la betterave, on voit que les betteraves, il y a de moins en moins d'usines de betteraves. Hein, il y en a des très grandes, alors qu'avant, il y en avait partout des sucreries. Elles ont été fermées, ça s'est concentré. Et donc, il y a, par exemple, tout le sud marnais, la plaine de Marne, au milieu du département, les betteraves, elles sont irriguées ou elles reçoivent de l'eau de pluie ou de la rivière. Et puis, ça part, je sais pas, jusqu'à la sucrerie de Reims ou à Pomacle, tout ça part en camion. Et donc, l'eau, alors c'est vrai qu'il restitue l'eau, hein, la sucrerie restitue l'eau, mais pas à l'endroit où elle a été prélevée, elle la restitue à Pomacle, dans le secteur. Hein. Quelques épandages, éventuellement, mais par rapport à la quantité de départ, c'est vrai que tout le sud Barnais, par exemple, il y a des rivières qui s'assèchent, hein, la Miette, la Noblette, c'est des rivières qui sont pas à sec complètement, hein, mais la période d'étiage intervient plus tôt dans l'année et continue jusque tard. Et donc, c'est pareil, la rivière, on a toujours l'impression dans l'imaginaire que c'est un tuyau dans lequel l'eau, elle coule. Mais c'est pas un tuyau, il faut savoir que l'eau, elle s'infiltre aussi sous la rivière et sur les côtés. Il y a toujours, si on regarde la quantité d'eau dans le sol, on se rendra compte qu'il y a plus d'eau. Plus on s'approche de la rivière, plus on avance, plus il y a de l'eau dans le sol. Voilà.
Peut-être dire que toutes les rivières sont pas fonctionnent pas de la même façon. Parce que par exemple la Vesle, on voit dès qu'il pleut, on voit qu'elle monte, et dès qu'il pleut plus, ça fait un peu comme si c'était une chasse d'eau en fait. Alors je sais pas s'il y a quelque chose à en dire.
Il y a deux types de rivières. Il y a des rivières qui sont issues d'une résurgence comme l'Ardre. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a de l'eau, la nappe, elle est très proche du sol. Et donc, à un moment, elle sort, l'eau, elle sort du sol et puis ça fait une source. Mais en général, c'est du ruissellement qui vient se concentrer. Et puis, il y a une sorte d'exutoire et là, l'eau, elle va arriver sous forme d'un filet. Et puis ces filets-là, ils vont se regrouper à plusieurs endroits. On va passer du fossé à vraiment la notion de rivière. C'est très codifié. Hein. Il y a ce qu'on appelle le fossé, le tronçon hydrographique, enfin hydrologique, et puis ensuite la rivière. la rivière, il y a une définition juridique, il faut qu'il y ait un écoulement régulier et suffisant. Donc, voilà, c'est pareil, là, on est sur une notion de concept juridique. Donc, si on n'est pas, si on peut prouver qu'il n'y a pas de l'eau tout le temps, on pourrait presque dire, bah, c'est pas une rivière.
D'accord.
Voilà, et je vois, par exemple, j'étais il y a peu de temps à Loivre, et il y a la même chose que j'ai remarqué à Bligny, c'est il y a des ruisseaux dans les villages qui ont été complètement gommés. C'est-à-dire on a installé des tuyaux, on a bien pris l'eau à la source et on ne la voit plus du tout. On peut même des fois même avoir construit dessus. Il y a wow. la Mure à Tinqueux.
Ok, oui, il y a le pont de Mure, c'est vrai.
Elle arrive à Besanne et puis il y a un gros tuyau. Elle se jette dedans, et puis après, bah, elle va se jeter dans la Velle, mais c'est construit partout, au-dessus.
D'accord.
Ouais. Voilà. Chouette.
Donc j'espère que ça passe sous la route, pas sous les maisons. Voilà, alors, c'est...
C'est fort, hein, à Poitiers, il y a une rivière qui passe sous la gare, et quand la rivière... Elle passe sous le passage souterrain et quand la rivière est en crue, tu ne peux plus emprunter le passage souterrain. Donc ouais.
Il y a une volonté de nier l'eau, quoi. Alors que nos ancêtres, visiblement, ils sont venus s'installer parce qu'il y avait l'eau.
Ouais.
Donc, oui, c'est...
Bah, à Reims, quoi, la Velle, c'est quand même petit, tu vois,
oui.
Comme rivière. Donc, c'est bizarre qu'ils soient installés ici.
Petit... Il y a quand même... bon, puis il y a tous les marais avant. Ça fait quand même... C'est aussi parce que... Ouais, c'est difficile de juger avec l'œil de maintenant. Parce qu'il y a aussi... donc il y a quand même les marais du Trou du Leu. Il y a quand même pas mal de zones humides en amont. Et puis toutes les eaux qui ont été captées, qui repartent... pas forcément toujours dans la Velle. Hein.
Oui, c'est vrai qu'on a notre vision de maintenant, mais quand ils ont construit ici, c'est que quoi, s'ils ont mis une ville ici, c'est que
le canal,
il y avait
ça
de quoi
pompe,
l'alimenter. Quoi.
Ouais, ça pompe pas mal d'eau, hein, les canaux. Mmh. Ils ont des débits réservés. Hein, Voies navigables de France, ils peuvent prélever dans la rivière 7-8 mètres cubes seconde, par exemple. Hein, des choses comme ça. Mmh. Donc si, je ne sais pas sur la Velle s'il y a ce sujet-là, mais a priori, ça serait possible, puisque le canal, il faut l'alimenter régulièrement. Il y a plein de prises, en fait, sur le canal, où on voit de l'eau qui arrive, qui sort d'un tuyau.
Ouais.
Bah, tout ça, c'est de l'eau qui est prélevée ailleurs, qui est remise dans le canal.
Mmh. Et je me demande, qu'est-ce que nous, citoyens, citoyennes, on peut faire, on peut demander à nos élus, ou qu'est-ce que l'on peut faire pour peut-être pas se protéger, mais pour se tenir informé par rapport aux polluants qu'il peut y avoir dans l'eau, pour protéger nos enfants, notre corps, pour dire on a les élections municipales bientôt et bientôt les présidents, enfin peu de temps après les présidentielles, voilà, quel message on peut faire passer aux personnes pour qu'ils prennent conscience de ça, pour s'en préoccuper et expliquer que, en fait, ça nous préoccupe.
Faudrait qu'il y ait un candidat avec un verre d'eau à la main, peut-être, qui nous dirait qu'il a envie de faire quelque chose. Il faut se tenir informé. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu sur, par exemple, le site de Marne Nature Environnement. On essaie de tenir un peu les gens au courant sur l'eau, l'air. Il y aurait aussi les sols, sur des choses un peu comme ça. Quelles sont les problématiques Après, ce qu'on peut faire, soit on peut pas faire grand chose. Moi, je suis propriétaire. Je me suis installé un filtre à eau sous l'évier. Donc l'eau pour boire, elle passe par un filtre à charbon. Mais franchement, je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Mmh. Hein. Je le fais en espérant.
Ouais.
Et donc, Bon, j'ai su faire l'installation, donc c'est pareil, s'il faut le faire faire, c'est quelque chose de très onéreux. Puis il faut quand même... quand même bien l'entretenir, bien, parce que c'est pas la peine de, après d'avoir une contamination bactériologique parce qu'on n'a pas bien suivi
bien
son
sûr.
Appareil. Mmh, mmh, mmh. Et puis, c'est bon, je veux pas dire qu'il faut plus boire de l'eau, mais on est une région de Champagne, mais
allez, buvons du champagne pour c'est, remplacer l'eau.
Franchement. Individuellement, on ne peut pas faire grand chose. On peut voter, oui, effectivement, pour des élus responsables. Sinon, on peut faire comme nous on fait à l'association, c'est essayer d'aller à la rencontre des élus ou des gens en charge de ça à l'Agence régionale de santé ou à la préfecture, puis de leur dire, écoutez... Ça va pas, ou il faudrait peut-être changer les choses. Mais on est trois, là. Au Coderst, on est trois. Il y a une association qui est issue d'un syndicat. Il y a aussi quelqu'un qui est issu d'un syndicat d'urbanisme. Et puis, il y a aussi, des fois, les associations de consommateurs. Et donc, on a un peu le même discours. Il faut quand même que ça ne fasse pas de tort aux consommateurs. Mais on est de toute façon en infériorité. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est venir aux commissions, mais pour être informé, pour savoir un petit peu les problèmes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est quand même un boulot qui prend du temps, mais qui nous permet de gagner du temps. Quand il y a une problématique, on est, on va dire, les premiers informés. Et du coup, on peut quand même agir parce qu'il y a des associations qui travaillent sur l'environnement, qui réfléchissent à la consommation. Il y a tout un réseau qui est intéressant avec plein de gens qui essaient de faire des choses. Donc, si on arrivait à être bien... ensemble outillés, on arriverait peut-être à modifier aussi des façons de faire. Hein, je donne un exemple. La centrale à bitume à Montelon, c'est en plein milieu viticole. Dès que les gens ils ont su qu'il y allait avoir une centrale à bitume dans leur secteur, ils se sont tous levés du pied gauche le matin et puis ils sont allés râler. Et du coup, il n'y a pas eu d'usine à bitume. Donc peut-être c'est ça qu'il faut faire.
Malheureusement, à Saint-Brice, ça ne marche pas aussi bien. Hein. Ils se sont levés du pied gauche, mais là...
C'est de leur faute, en fait. C'est la faute aux gens de Montelon qu'il va y en avoir une dans le coin.
Ouais. Alors, vous ne savez pas la nouvelle. Je l'ai su il y a 2-3 jours. Justement, la commission locale de l'eau, on a vu un projet qui est arrivé. C'est une centrale à bitume, mais cette fois... du côté de Courreau, du mont de Courreau, vous voyez où c'est le long du canal en remontant vers La Pume, qu'est-ce qu'il y a là-bas, vers Saint-Léonard.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Donc là, il y a l'incinérateur, et puis avant l'incinérateur, il y a je ne sais plus quoi, et puis donc il y a un terrain après, donc il y aurait là une usine... de bitume enrobé qui va s'installer là. La différence, c'est qu'elle devrait être encapotée, mais par contre, elle est à, on a regardé sur la carte, elle est à 200 mètres de Lavelle. Ouais. Et elle est à 150 mètres du champ captant de Courreau.
Oh, ouais,
donc le champ captant pour l'eau potable de Reims. Ouais. Bon, sachant que il faut relativiser parce que le champ captant de Courreau est très très pollué de toute façon.
D'accord.
Un peu de plus, un peu de moins, c'est pas...
C'était...
Non,
c'est
on en rigole,
nouvelle.
Mais c'est pas drôle,
ouais,
quoi.
Non, mais c'est... Bon, après, oui, il faut pas essayer de pas se rendre malade avec ça, quoi, parce que, ouais. De toute façon, ça nous dépasse largement.
Oui, mais tu vois, par exemple, quoi, c'est pas le sujet, mais les centrales à bitume, on sait, à Guise, ils l'ont fermé parce que c'était nocif pour la population.
Bah, oui.
Là, ils en construisent une qui fait plus grosse... Mais ben pourquoi, quoi ? Ils attendent qu'on soit malade pour la fermer, quoi que ce soit, c'est ça. Ouais. C'est un manque de bon sens, quoi.
Oui. Faudrait le train. Faudrait pas la voiture. Comme ça, il n'y aurait pas besoin de bitume. En fait, c'est le développement économique global qui va pas dans le bon sens.
Oui, s'ils avaient gardé déjà le train, les trains de marchandises et tout ça. Le problème,
c'est de brûler les ordures. Alors que on sait qu'il y a quand même des produits qui partent, mais c'est comme c'est légal, c'est dans les taux. Mais ces produits-là, ils vont bien quand même quelque part. Donc on était à la commission du Rémival il y a quelques jours, et pareil, on nous dit, l'incinérateur pollue pas plus que ça, il est dans les normes, et en fait, il existe un bruit de fond de pollution qui est dans l'air, partout, et donc c'est personne. C'est un bruit de fond, personne n'est coupable, et puis c'est comme ça.
D'accord, fantastique.
J'ai dû vider mon jacuzzi parce qu'il faut sauver mon pays. Plus de bain tous les soirs. Et c'est l'heure de l'écologie, je peux plus doucher mon Audi. J'ai des biens smicards. Jardinage, t'es en tort, pas assez de sponsors. Parce qu'il y a plus d'eau. Tu arroses tes choux-fleurs déguisés en golfeur. C'est le bon tuyau. Y'a plus d'eau. Peut-être parce qu'il fait trop chaud. Y'a plus d'eau. Faudrait qu'il pleuve très bientôt. Y'a plus d'eau. Il va falloir chanter faux. Y'a plus d'eau. Et Jules devient mon héros. Mon héros. Moi je veux faire les choses bien. Je sens mauvais mais je m'abstiens. Car la douche c'est demain. Dans mon Ricard, je mets plus rien. Et le café, je mange les grains. Je veux faire les choses bien. J'ai vidé l'arrosoir, le fond de ma bouilloire. Donnez-moi de l'eau, la sueur vaut de l'or. C'est salé, mais j'adore. Je mets plus de déo. Y'a plus d'eau. On est au bout du ruisseau. Y'a plus d'eau, les poissons nagent sur le dos. Y'a plus d'eau, l'avenir c'est les chameaux. Y'a plus d'eau, c'est la fin des escargots. Y'a plus d'eau. Dans le décor, tout se fane, nos forêts des savanes, un tableau de Cézanne. Pour ne pas que tout crame, s'enflamme, on jette pas sa gitane. Y'a plus d'eau, chaque jour alerte météo. Y'a plus d'eau, on touche le fond.
Mais bon, faut pas baisser les bras. Hein. Je pense qu'il faut essayer de trouver des façons de faire. Bon, moi, je bois quand même l'eau du robinet. Hein.
De toute façon, on peut pas. Il y a des problèmes aussi avec les eaux embouteillées. Oui. Donc après.
Oui, mais d'une manière générale, les personnes vont plus facilement se tourner vers l'eau en bouteille dès qu'il y a un souci.
Oui, je suis d'accord.
Beaucoup de personnes se considèrent plus protégées par de l'eau en bouteille que par de l'eau au robinet. Ouais. À tort ou à raison, parce que c'est aussi ce message-là et cette volonté-là qui a été véhiculée depuis un petit bout de temps.
C'est comme tu vas au restaurant, les eaux, elles sont fournies en bouteille en verre. Parce que c'est censé être plus classe, mieux que...
Bah, peut-être moins polluant, parce que
le plastique, oui.
Le plastique, oui.
Mais bon, bah, je crois que c'est... Le plastique, il y en a dans les canalisations qui apportent l'eau. Je pense que c'est des représentations qu'on a.
Ouais.
Hein, que la pub, elle nous a mis... dans le cerveau.
Oui, et puis là, en ce moment, c'est les microplastiques à fond. Quoi. Ouais. Chaque polluant a son heure de gloire.
Et nous, c'est malheureux parce qu'on est un petit peu là, comme on gâche la fête, en fait. on leur donne... Ah ouais, mais c'est moche, tout ça.
C'est pour ça qu'on diffusera l'émission que l'année prochaine, en 2026.
Ah, ouais. On va pas gâcher du chocolat. Rayon,
c'est ça, ouais. Si on n'a pas d'autres gros points à aborder sur l'eau, moi, une question, c'est comment on peut vous aider, que ce soit pour le sujet de l'eau ou autre chose, comment les personnes peuvent se dire « Ah ben tiens, on voudrait bien en apprendre plus sur l'eau, donc de la sensibilisation à ça, ou sur d'autres problématiques que Champagne Ardennes Nature Environnement peuvent couvrir ?» comment on peut vous rejoindre, comment on peut vous aider de toutes sortes de façons
Oui, ben écoute, nous on est très accueillants, en fait. Si quelqu'un
bien sûr, vu que tu as le sourire quand tu nous parles de toutes ces problématiques là, on se doute bien que tu es très accueillant.
Voilà, on peut nous aider de plusieurs façons en nous rejoignant. Donc après, on décide ensemble en conseil qu'est-ce qu'on fait. Les sujets sont variés. On avait fait quelques plantations. On peut faire éventuellement des actions ici ou là pour remédier, pour sensibiliser. On va un petit peu dans les écoles aussi. On fait des protocoles scientifiques, on essaie d'intéresser les jeunes à des choses. On va aussi dans les quartiers faire un petit peu, essayer de porter cette parole de l'environnement dans les quartiers. Souvent, c'est assez gratifiant de voir. Moi, j'aime bien en fait aussi les objectifs transversaux. Hein, on va faire un hôtel à insectes, mais en fait, l'hôtel à insectes, je dis souvent, ça sert à rien. Mais par contre, ça fait plaisir parce que on va voir, par exemple, moi ça me réjouit toujours, y avait une petite nana là, qui était là, et puis qui a chopé la perceuse, et puis qui s'y est mis, puis c'était mieux que les gars, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça. Bon, et puis en même temps, on peut porter un message, par exemple, au quartier. J'avais dit, là, la mairie a un projet. C'était à Chalon. Hein. Et je dis, en fin de compte, malgré tout, c'est pas mal qu'ils aient eu envie de porter un projet dans ce quartier-là. Et en disant aux habitants, qu'est-ce que vous voulez ?
Ouais.
Et dites-nous ce que vous voulez. Mais comme c'est un quartier, les gens ne se sentent pas légitimes.
Ah, oui.
Donc du coup, nous on était là pour leur parler d'environnement, leur montrer des trucs, alors ça les intéressait. Mais en même temps, ça les a amenés, le message à la fin c'était de dire, c'est vous qui habitez là, donc bougez-vous. Après dites, il n'y a pas de comité de quartier, faites-en un. Voilà, le message c'était ça.
Ouais, ouais.
Vous pouvez le faire, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on essaie de passer. Puis bon, je forme des gens aussi, des jeunes, puisqu'on a deux salariés. Donc c'est des jeunes à qui on donne une chance pour faire pour leur premier emploi souvent. Mmh. Et puis quand ils repartent, ils ont, je pense, pas mal de compétences. Ils peuvent se trouver des choses encore mieux, j'espère, pour eux. Voilà. Et puis... moi, je conçois pas la vie en collectivité sans me porter un message et puis une lutte, quoi. En fin de compte, l'environnement, c'est une lutte à la fois environnementale mais sociale aussi, quoi. Je pense que... Et malgré tout, on a on a des victoires, hein, sur des choses. Je pense que c'est bien. On ne gagne pas souvent, mais des fois, un petit peu quand même.
Oui.
Tu peux nous juste en dire une ou deux, là, si ça peut parler aux personnes.
Oui. Ben, on a fait condamner, par exemple, Engie, qui avait détruit 40 hectares le long de leur pipeline. Ils ont fait un pipeline dans la Haute-Marne. Ils ont des engins tellement gros qu'ils ont bousillé 30 mètres de forêt, hein, sur tout le long du pipeline. Et il y a 10 mètres, c'est le pipeline, donc on ne peut rien mettre dessus. Mais de chaque côté, les deux autres 10 mètres, ils auraient dû être remis en état, avec de l'herbe, ne serait-ce que de l'herbe, ou voilà, des petits arbustes. Ils ne l'avaient pas fait. Ils avaient provisionné 200 000 euros pour le faire, mais ils pensaient que ça se ferait tout seul. Et au bout de 3 ans, ce n'était pas fait.
D'accord.
Donc voilà, une petite victoire. Qu'est-ce qu'on a Bon, bah, et puis on intervient, là, par exemple, sur des destructions d'étangs. On a un étang à Noirlieu qui a été complètement rasé. J'ai fait des photos de la forêt autour de l'étang, de la roselière avec tous les martins pêcheurs, les oiseaux, etc. Il n'est resté que l'eau et le sol, hein, sur 12 hectares, c'est quand même beaucoup.
Et donc, il a été rasé pourquoi ?
Eh ben, c'est parce que c'est pour la pisciculture, parce qu'il faut recreuser l'étang si on veut plus de poissons, etc. Mais c'est pareil, là, c'est une façon de voir industrielle. Un grand trou avec de l'eau, plein de poissons. Puis après, on va se plaindre qu'il y a des cormorans qui viennent manger le poisson.
Des hérons,
qu'il faudra détruire. On a eu un procès retentissant, là, qui n'est pas tout à fait fini, sur la destruction d'un pigargue, une espèce protégée, qui chasse le cormoran. Hein, qui est très utile pour les pisciculteurs, qui a été donc détruit dans les Ardennes. Donc voilà, il y a des choses comme ça.
Ok.
Et pour vous aider, on va avoir le droit d'adhérer bientôt tant que particulier.
Voilà.
En tant que personne physique et vivante. Physique,
hein. Ouais. On est une fédération d'associations, donc on a beaucoup de collectifs, d'associations qui viennent nous voir, mais il n'y avait pas de personne physique qui pouvait adhérer. Mmh. Et j'aimerais bien, moi, qu'il y ait des personnes... qui viennent individuellement, donc puisque c'est possible maintenant d'adhérer. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont porteuses d'idées et de projets. Un collectif, il est parti sur une thématique, une série d'objectifs, souvent locaux et bien centrés. Si on veut, il y a plein de sujets, hein, si on veut se battre sur le photovoltaïque au sol... sur l'agriculture intensive, sur l'eau, sur la pollution de l'air. Enfin, il y a plein de sujets. Et
il y en aura de plus en plus.
Ouais. Il y a des personnes qui sont en but à une difficulté, qui voudraient comprendre, qui voudraient tenter de faire quelque chose. Il faut venir. Et puis, vous verrez à quel niveau on en est sur ces thématiques-là. Et puis, après, rechercher des idées sur qu'est-ce qu'on peut faire de plus.
Ok.
Et vous avez des bureaux, quelque part ?
Oui, on a des bureaux à Chalon, au 111. C'est 111 Avenue de Paris. C'est un restaurant associatif.
Non, c'est à la cantine du 111.
À la cantine du 111.
D'accord.
Et au-dessus,
il y a des bureaux. Ouais.
Dans les bureaux au-dessus, oui.
D'accord.
Il y a pas mal d'associations, d'auto-entrepreneurs, etc. Des services.
On connaît.
Oui, c'est sympa comme quoi.
Très.
Eh bien, top. Eh bien, avant de se dire au revoir, juste donner aux personnes. Un numéro de contact ou un email, comme ça leur évite, s'ils ne peuvent pas se déplacer à Chalon, de communiquer avec vous, pourquoi pas.
Bah, t'as ça là dans le flyer, normalement c'est marqué. Donc le mail, c'est canne.assos@gmail.com. Et puis donc il y a l'animatrice qui fait de la sensibilisation, d'éducation, hein, qui travaille surtout sur ces sujets-là. Elle est au 06 41 40 88 02. Et puis on a un juriste donc qui travaille lui plutôt sur les alertes sentinelles.
Bon, on en a parlé, oui. Voilà.
Et donc lui c'est canne.juris@gmail.com. Il y a un téléphone aussi pour le joindre, c'est le 07 84 67 80 89.
Et ben,
il y a un Facebook aussi.
Top.
Oui, je suis allée sur la page Facebook, j'ai vu qu'il y avait des animations sur les ruisseaux en ce moment.
Oui, ouais, on a un beau projet, on n'en a pas parlé, projet Vigio, avec le CNRS pour faire la carte nationale des critères physico-chimiques des tout petits ruisseaux. Et c'est pour aider le CNRS dans cette démarche-là, parce qu'il n'y a pas d'argent en fait pour faire toutes les analyses. En fait, il y a le coût de l'analyse, mais il y a aussi le coût du gars qui va sur place et qui ramène tout à Paris. Donc là, c'est nous qui les aidons à se déplacer. Et puis on regroupe des gens qui sont intéressés et on leur remet un kit pour qu'eux aussi, à leur tour, ils aillent le faire sur le ruisseau à côté de chez eux ou un ruisseau qui les intéresse. Et donc, on fait un peu de la formation sur ce coup-là. C'est un programme de sciences participatives. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de parler justement de tous ces problèmes de l'eau, d'informer, puis d'échanger. Ça permet aussi de rencontrer des gens intéressants. Par exemple, là, on était du côté d'Orbey-l'Abbaye. On a rencontré le président du syndicat mixte de l'eau. Et en fait, il y a des gens vraiment bien. Hein. Il y a des gens qui veulent vraiment faire des choses. Et puis qui ont un esprit, comme je disais tout à l'heure, le maire là, que j'ai remercié d'avoir parlé d'eau de qualité.
Ouais, d'eau confort. Il y a des gens qui ont conscience de l'importance de tout ça.
Et... Voilà. Ou des gens qu'on voit, qui viennent présenter leur commune et puis ils sont dévastés, ça se voit quand on les regarde. Il y avait aussi une mairesse qui disait on a essayé de discuter avec les agris, voir si on pouvait modifier un peu les choses. Mais voilà, il y a des gens qui ont quand même un esprit... intéressant, ah ouais, concret sûr. Quoi. Puis, mais c'est le système qu'il faut quand même modifier, je pense.
Ouais.
C'est ça, et on va s'arrêter là-dessus. Et ce qui est intéressant dans les numéros de téléphone, c'est en fait toutes les personnes qui nous écoutent, si vous travaillez dans une école ou dans une maison de quartier, ou si vous encadrez des jeunes enfants, parce que je pense que tout doit passer par les jeunes, mais n'hésitez pas. Ben, en fait, à téléphoner, parce que s'il y a une animatrice qui peut vous aider à aborder certains sujets avec les enfants pour qu'ils prennent conscience de certaines choses, ben, ça serait fantastique. Frédéric, merci beaucoup.
Oui, c'est moi.
Merci Frédéric.
Cécile, merci. Et donc, à très bientôt. Ciao.
À bientôt.
Au revoir.